Le vrai true crime avec les vrais dossiers. Bienvenue sur Mémoire d'archives.
L'affaire Blanche Garneau, chapitre 18, le procès. Et oui, enfin, après 17 chapitres et une introduction, on en arrive enfin à un procès. Je tiens à souligner que c'est pas le cas, ça arrive pas dans tous les cas d'affaires non résolues. Évidemment, à cette époque-là, au moment de l'ouverture du procès, de Binette et Palmer, eh bien, on se doutait pas que ça resterait une affaire non résolue et à tout jamais, dans le fond, parce que là, après 100 ans, oubliez ça. Je pense pas qu'on trouve, de toute façon, quand même qu'on trouverait un suspect intéressant. On pourrait pas prouver, hors de tout doute raisonnable, que c'était lui le meurtrier. On pourrait pas lui faire un procès. Alors, voilà. Donc, le procès dans mon livre, à l'époque, c'est principalement l'ouverture du procès ou, si vous voulez, en grosse partie, la présentation de la preuve de la couronne, donc de la poursuite, comme on dit aujourd'hui. Eh bien, le procès, ce chapitre-là faisait 20 pages. Ben, il fait toujours 20 pages parce que le livre, je l'ai encore. Je sais pas, des fois, je mélange les temps de verbe. Désolé. Donc, voilà, on va essayer quand même de le faire... Je vais essayer de le faire en pas trop long, hein, en bas de 3 heures si possible. non, faites-vous-en pas, on va essayer de quand même. Mais c'est important de tout voir pour vous permettre de vous faire une opinion juste, à savoir est-ce que c'était eux les meurtriers ou c'était quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Donc le procès s'ouvre le 27 octobre 1921. On est plus d'un an, presque un an et demi après le crime. Et ça se passe au Palais de justice de Québec devant le juge George Farrar Gibson. La couronne, de son côté, était représentée par les procureurs Arthur Fitzpatrick, nul autre que celui qui avait guidé justement le procès l'année précédente, pour la couronne toujours, au procès de Marianne Hood, la fameuse marâtre, et oui, la meurtrière de Aurore, l'enfant martyr. Donc, il avait une certaine expérience et il avait sûrement gagné un peu de popularité à cette époque-là. C'est difficile d'évaluer la popularité d'un procureur, surtout après, avec un recul de 100 ans, mais certainement qu'il avait accompli, il avait fait sa renommée, disons. Et à ses côtés, on retrouve aussi 2 autres procureurs, et vous allez les reconnaître parce qu'on les a quand même nommés à quelques fois au cours des précédents épisodes. C'est Aimé Marchand et Lucien Cannon. Oui, oui, oui. Et ces deux-là étaient impliqués depuis pratiquement les tout débuts. On se souviendra quand même, Aimé Marchand, c'est lui qui conduisait l'interrogatoire à une des enquêtes préliminaires. De leur côté, évidemment... Hein? Peu importe l'opinion que vous avez, ben, un accusé a le droit à une défense pleine et entière. Et la défense, ce qui est particulier là-dedans, c'est que les 2 accusés ne seront pas défendus par les mêmes avocats. Donc la défense de Palmer, on retrouve les avocats Léthor Roy et Armand Lavergne. Ce dernier, en parlant de Lavergne, était âgé de 41 ans. J'en parle parce que c'était quand même, c'est important de faire un petit peu d'histoire autour de ça. Les jeunes aujourd'hui, probablement qu'Armand Lavergne, ça leur disait rien. Et je dois l'avouer, je lève la main. Son nom m'était pas étranger, mais j'en savais pas beaucoup à son sujet avant d'entamer mon enquête sur l'affaire Blanche Garneau. Donc Lavergne, juste pour faire rapide, là, il avait quand même déjà un passé controversé. Il avait été élevé dans une famille proche du premier ministre Wilfrid Laurier, le premier premier ministre canadien de langue française, je le dis en passant comme ça. Lavergne s'était dissocié donc de Laurier, en comprenant son attitude trompeuse, apparemment. Je suis pas là pour juger, là. trompeuse envers les Canadiens français, entre autres dans des questions comme celle de la guerre des Boers ou l'exode vers les États-Unis. En 1910, Lavergne, qui était un jeune avocat, est parvenu à faire accepter son projet de loi sur la protection de la langue française. Et oui, rien de moins, il y a plus de 100 ans déjà, on se préoccupait de la protection de la langue française. Et vous en avez un bon exemple avec Monsieur Lavergne. Lors des émeutes de la conscription en 1918, il avait attiré la sympathie d'une partie de la population par ses discours nationalistes. Donc déjà, il se faisait connaître à cette époque-là, donc 2-3 ans avant le procès. Évidemment, ça faisait de lui un adversaire politique du premier ministre libéral, Louis-Alexandre Taschereau. Et Louis-Alexandre Taschereau, qu'est-ce qui va arriver? Ben, pas au procès, je pense pas, mais à la commission royale d'enquête plus tard, il va venir témoigner. Donc, est-ce que ça peut créer un conflit d'intérêts? Ce sera à vous d'en juger. Finalement, au cours de l'été 1920, Lavergne avait subi un grave accident de chasse qui l'obligeait, là, depuis ce temps-là, parfois, à se déplacer avec des béquilles en raison de puissants maux de dos. Alors, on imagine dans quelles conditions il s'est présenté au procès, là, un petit peu plus d'un an plus tard. Donc, physiquement, il était déjà hypothéqué. Pour sa part, Binette, lui, allait être défendu par Maître Marc-Aurel Lemieux. C'est lui qui avait assisté Maître Francœur lors du procès de Marianne Hood en avril 1920. Donc, encore une fois, on fait référence à, hein, au même cas. C'est sûr que quand on parle de district et de même époque, les causes judiciaires finissent par se croiser. Les hommes de loi aussi, hein, c'est veut, veut pas. Un procureur, en tout cas les procureurs qui plaident les causes criminelles d'homicide n'en font pas juste une dans leur vie, ça peut arriver, mais normalement, à cette époque-là, ils en ont fait beaucoup, donc leur nom revient souvent et tout ça. Bon, c'est tout à fait normal de faire des croisements, et comme on a fait déjà des croisements d'ailleurs avec le procès de la marâtre, c'est-à-dire avec le docteur Albert Marois qui a fait l'autopsie sur le corps de la petite Aurore. Donc, après la sélection des 12 jurés, à cette époque-là, c'était seulement des hommes, et oui, honte à nous, oulala, ça a pris, il a fallu attendre 1971 avant d'avoir les premières femmes parmi les jurés, et oui. Alors, à cette époque-là, imaginez-vous que c'était juste des hommes, j'ai les noms des 12 jurés, ils sont dans le livre, mais là, je pense que vous allez me pardonner, le fait de ne pas les nommer, c'est pas très important, c'est même pas pertinent du tout pour notre affaire, c'est-à-dire d'analyser la preuve qui a été présentée. Donc, après cette sélection-là, le docteur Marois devient le premier témoin. Et lui, il explique rapidement qu'il a 39 ans d'expérience comme chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Québec. Et depuis des années, il s'occupait de toutes les autopsies reliées aux crimes commis dans le district de Québec. Évidemment, il ne couvrait pas tout le Québec. C'est important de le spécifier. Parce qu'à Montréal, il y avait le docteur Wilfrid de Rome qui prenait de plus en plus d'importance. Et même, il va être impliqué dans cette cause-là. On va le voir. Et surtout, depuis 1914, là, il avait fondé le fameux laboratoire... La fameuse institution, si on veut, ce qui est devenu plus tard l'Institut de médecine légale à Montréal et qui est intégré maintenant au bâtiment de la Sûreté du Québec sur la rue Parthenay. Bon, merci, bonsoir, c'est dit. Donc, interrogé par les procureurs de la Couronne, Marois explique les grandes lignes, évidemment, là, le fait que Blanche Garneau mesurait 5 pieds 5, qu'on avait retrouvé un drap de coton qui la recouvrait, il n'y avait aucune marque particulière. Par contre, sa robe était faite d'une étoffe à petits carreaux blancs et noirs. Son corsage avait été remonté jusqu'au dessus des seins. Il était encore boutonné et que son bas droit était baissé. Jusqu'au dessous du genou. Au dessous, oui, j'ai bien dit, en dessous du genou. Alors, devant le coroner, il avait parlé de souliers, je dis bien le mot souliers entre guillemets. Il décrivait maintenant les chaussures de la victime comme des demi-bottines en cuir. OK, ça se peut que ce soit, comment je dirais ça, une erreur de synonyme, comme on dit, les mots se transforment dans notre tête, mais... Bon, quelle différence qu'il y a entre souliers et demi-bottines en cuir? Je vous laisse ça à vous ou aux spécialistes des magasins de chaussures. On ne sait jamais. Il disait que c'était au moins c'était des chaussures munies de talons d'environ 2 pouces de haut, OK? Mais dont le droit, celui de la chaussure droite, était endommagé et ne faisait plus que 3/4 de pouce. Donc, il en manquait un morceau. Et là, il revient, tu sais, on sait qu'on avait vu à un moment donné dans un chapitre qu'on faisait allusion au soulier droit, à un moment donné au soulier gauche. Alors là, il répète, c'est le soulier droit. Parmi les éléments nouveaux, par contre, le docteur Marois va dire que Moisan, c'est le fameux pompe funèbre qui est venu chercher le corps, lui avait remis une ceinture en cuir verni. OK, retenez ça, parce que la ceinture en cuir verni va faire un petit scandale un peu plus tard. Pas dans cet épisode-ci, mais vous allez voir que c'est quand même un élément assez important qui aurait même, vous vous en doutez pas, mais qui aurait pu nous permettre de trouver l'assassin. Et cette ceinture-là, ce qui est étonnant, c'est qu'elle portait encore une étiquette indiquant 40 sous. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Blanche Garneau l'avait acheté récemment et qu'elle avait oublié d'enlever l'étiquette. Est-ce qu'elle l'avait acheté même la journée même? Je ne sais pas. Désolé, mais je ne peux pas vous aider là-dessus. Mais retenez quand même cette ceinture-là, c'est assez intéressant. Ça va être intéressant, vous allez voir ça. Ce qui est étrange aussi de la part du docteur Marois, c'est qu'il précisera que, et j'ouvre les guillemets, le cerveau ne présentait rien de particulier à mentionner. Et je ferme les guillemets. Je ne sais pas si je viens d'éveiller en vous une... je viens de vous faire sauter sur votre chaise. Je ne vous laisserai pas languir plus longtemps, parce que si vous vous souvenez des premiers détails qu'on a vus ensemble, l'autopsie et l'enquête du coroner... Il avait dit d'ailleurs devant le coroner que la décomposition du cerveau était complète. Alors, pourquoi maintenant il est capable de dire que le cerveau ne présentait rien de particulier à mentionner? C'est assez bizarre. Parce que quand on dit qu'il ne présente rien de particulier à mentionner, quand on parle d'un organe, c'est parce qu'on laisse sous-entendre que l'organe est intact. Qu'il n'y ait rien de particulier. Ça m'étonnerait qu'on ait voulu dire qu'il était absent complètement et qu'il présentait rien de particulier. Dans la langue française, des fois, on peut s'obstiner. Le diable est dans les détails, je l'avoue. Mais là, c'est vraiment curieux. Est-ce que c'est une contradiction claire? J'en ai aucune idée. Mais ce qui est le plus troublant dans ça, c'est que moi, je l'ai vu, ce détail-là, mais on n'est pas revenu parmi les questions et même à la commission d'enquête royale par la suite. Je pense pas, en tout cas, de mémoire. On va le voir ensemble. De toute façon, si je vous dis pas la vérité, vous me surveillerez. Mais je pense qu'on ne l'a pas remarqué, ce détail-là. Alors, j'hésite à dire que c'est une contradiction, mais quand même, c'est assez étonnant. Quant aux détails entourant le viol, en plus de tout ça, là, il va oublier de mentionner les ecchymoses aux cuisses qui laissaient croire justement que l'agresseur avait lutté avec Blanche pour la forcer à écarter les jambes, par exemple. Donc, il oublie de mentionner ces bleus-là. Bon, est-ce que c'est un oubli? Ou bien s'il revient à ce qu'il avait vu originellement? Vraiment étrange. Par contre, il soulignera au procès que l'hymen avait été déchiré. Bon, déjà là, on vient de démontrer au procès qu'il y avait eu viol. Et ensuite, il confirme aussi avoir fait affaire avec le docteur de Rome, surtout à distance là, pour des analyses, et que la mort était attribuable évidemment à la strangulation. Donc c'est juste une question... Parce que là, le procès, il ne faut pas oublier, malgré tous les 17 chapitres que vous êtes au courant, ben mettez-vous dans la peau des jurés, eux ne sont pas censés être au courant de tout ce qu'on a dit depuis le début de la série de la balado. Donc, on recommence à neuf. Le procès, c'est ça, c'est un travail qui recommence à neuf et qui va s'attarder seulement aux vrais faits, c'est-à-dire les faits qui vont être admis par le juge. Donc, ça, c'en est un fait. C'est-à-dire le témoignage de celui qui a fait l'autopsie, ça devient un fait. Qu'il se trompe ou qu'il se contredise sur d'autres, ça c'est la job, si on veut, des procureurs de le faire remarquer par la suite pour essayer, mettons, par exemple, d'attaquer sa crédibilité. Mais ça devient quand même une preuve. Alors, voilà. C'est quand même assez important là, de remettre un peu les compteurs à zéro. Là. Je sais que pour certaines personnes, c'est difficile pour X raisons, et je ne juge pas en disant ça. Je sais qu'il y en a que... Mais c'est un exercice qui se fait, qui se pratique. Et oui, c'est possible. Quand je le fais, souvent, moi, ce que je fais, c'est que quand j'écris mes livres, par exemple, quand ça devient un livre et un procès assez important, j'étudie beaucoup, j'écris, je monte le manuscrit jusqu'à temps que je sois rendu à peu près au procès. Et là, le procès, je laisse un temps, des fois c'est quelques semaines, quelques mois, une coupure complète. Je travaille plus sur le manuscrit, je fais autre chose. Et là, quand j'y reviens, ben là, je m'attarde juste au procès. C'est sûr qu'il y a des liens à faire après et il y a plusieurs lectures qui se font, mais au moins la réflexion, c'est un peu... C'est ça qui est important et qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas, qui m'ont déjà dit que j'étais pas assez exhaustif, mais l'exhaustivité, c'est pas de faire ressortir tous les articles journaux dans le monde qui ont parlé de Blanche Garneau. C'est pas ça. L'exhaustivité ici, de façon judiciaire, c'est d'étudier le procès parce que c'est sur cette preuve-là qu'on l'a jugé, qu'on a donné un verdict. C'est pas sur des articles de journaux qui ont été écrits avant, pendant ou après le meurtre. Donc, voilà. Ensuite, ce qui est important aussi, je pense, pour ce qui est du témoignage du docteur Marois, c'est qu'il parle du degré de décomposition, mais, et là je vais lire ses paroles, « mais l'apparence de la face et du cou, la partie supérieure des cuisses et le ventre indiquaient qu'il y a eu des manipulations, des coups, comme vous voudrez l'appeler. » Mais il y a certainement eu un coup porté à la tête, en arrière de la tête, vu qu'il y a eu une large ecchymose et une fracture du crâne. Donc, elle a été étranglée et elle a été frappée. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile de s'avancer sur quoi que ce soit parce qu'on manque d'éléments. On pourrait avoir des éléments qui appuient une ou l'autre des causes, mais par exemple, on peut se questionner. Ça, c'est pas interdit. Le fait qu'elle ait subi comme ces deux sortes d'assauts, dans le fond. Donc, elle a été frappée et elle a été étranglée. Est-ce que ça veut dire qu'il y avait deux personnes ou si c'est une seule personne qui a utilisé deux moyens de la tuer? Par exemple, et je dis bien par exemple, ça ne veut pas dire que c'est ça qui s'est passé, mais s'il y a eu un échauffouré sur la voie ferrée, il a pu la frapper dans un premier temps, pour qu'elle soit plus facile à entraîner dans les broussailles. Mais cette première agression-là présente une autre version aussi avec le talon de la chaussure. C'est que Blanche aurait tout simplement pu trébucher et se frapper le crâne sur la voie ferrée. Donc, qu'elle ait été frappée ou qu'elle s'est frappée elle-même en tombant, peu importe, la blessure est là. Et ensuite, ben, après avoir fait son affaire, on imagine que là, elle s'est peut-être réveillée et au lieu de crier, le tueur a paniqué et il l'a étranglé. Ça pourrait ressembler à ça. Mais il faut quand même faire attention parce qu'on n'était pas là et on n'a pas la scène de crime a été contaminée, comme on le sait, et tout ça. Donc, peut-être que si ça n'avait pas été le cas, on aurait eu plus d'éléments pour détailler et savoir plus authentiquement ce qui s'est passé. En contre-interrogatoire, parce que là, évidemment, c'est un procès, hein? La défense a le droit de contre-interroger les témoins, et justement pour vérifier leur solidité. C'est important, c'est très important. Finalement, en contre-interrogatoire, il y a Maître Lemieux qui se lève et qui demande ceci au docteur Marois. « Je n'ai qu'une question à vous poser, docteur. » Voulez-vous dire, d'après l'expérience que vous avez, et après avoir vu le cadavre, depuis combien de jours peu après cette fille était morte? Et le docteur Marois répond, c'était dans la saison d'été et la décomposition se faisait. Ça faisait certainement plusieurs jours. Qu'entendez-vous par plusieurs jours? 5 ou 6 jours? 7? Je ne sais pas. Est-ce que ça pouvait être 8 jours? Je ne peux pas dire. J'ai aucun signe pour me permettre d'être plus précis que ça. Quelques jours. Et Lavergne a décidé tout de même de revenir, lui aussi, parce qu'il avait posé quelques questions que je n'ai pas retenues dans le livre. Et lui demande « Le coup sur la tête, docteur, dont vous avez parlé avec fracture, a-t-il été causé après la strangulation? » Et là, le docteur Marois commence une réponse bien trois petits points parce qu'il se fait interrompre. « Pouvez-vous le dire ou si vous ne pouvez pas le dire? » Ça, c'est difficile à dire. Ça n'était pas un coup fatal? Le coup n'était pas fatal. Au moins immédiatement fatal. Il y avait une fracture et on ne sait jamais les suites d'une fracture. Mais elle était vivante lorsqu'elle eut la fracture. Et ça conclut le témoignage du docteur Marois. Alors, le défilé des experts se poursuit, cette fois avec le docteur Durham, dont on vient tout juste de parler, spécialiste en médecine légale, qui répond ceci quand on lui demande le résultat de ses analyses. Il dit « J'ai reçu le 2 août 1920 de monsieur le coroner Jolicoeur venant de la part du docteur Marois des sécrétions vaginales de Blanche Garneau et j'ai examiné ces sécrétions et j'ai trouvé la présence de spermatozoïdes, c'est-à-dire le germe de l'homme. » La couronne a jugé que cette réponse était bien suffisante pour prouver la viol, donc le procureur Fitzpatrick est allé se rasseoir tout de suite. Mais Maître Lavergne s'est levé pour demander au docteur comment on avait trouvé de spermatozoïdes, en quelle quantité. Est-ce que c'était en grande quantité? C'est ça qu'il lui demande. Le docteur répond donc ceci. Non, parce que ça ne pouvait pas être en grande quantité. Seulement, ils étaient divisés dans une quantité assez considérable de liquide des sécrétions mêlées à des microbes et différentes choses, et nous sommes satisfaits de pouvoir dire encore en trouver un, deux ou trois spécimens pour notre satisfaction. Ce n'est pas la même chose lorsque l'observation se fait à l'état frais et que nous pouvons recueillir le sperme à peu près pur, c'est-à-dire recueillir la semence à peu près pure dans un vagin qui n'est pas encore putréfié. Et voilà, ça mettait fin au témoignage du docteur de Rome. Ensuite, on a appelé le père adoptif de la victime, c'est-à-dire Michel Baribeault, qui a décliné son âge au greffier comme ayant 69 ans. Et sa présence, comme vous vous en doutez, ça sert évidemment encore à mettre en contexte les dernières heures de vie de la victime. Et il répète encore que c'est à l'âge de 4 ans et qu'elle avait 23 qu'elle c'était à l'âge de 4 ans qu'il l'avait adoptée et qu'au moment de sa mort, elle avait 23 ans. Donc, petite imprécision, mais bon, on peut dire que peut-être qu'on peut lui pardonner si le monsieur à cette époque-là ne savait pas compter, par exemple. Quand on lui a demandé si Blanche Garneau gagnait sa vie au moment qu'elle a été tuée, Michel Baribeault répond « Oui, elle travaillait parce qu'elle le voulait bien. Je n'ai jamais voulu la laisser travailler. C'était seulement un amusement qu'elle avait et c'est tout. » Donc, elle était autonome financièrement, mais ça semble vouloir dire que lui était prêt à assumer tous les frais. Donc, c'est pas de lui qui l'avait obligé à aller travailler. On apprendra aussi que Blanche Garneau travaillait seule à la boutique de thé durant les jours de semaine. Tandis que le samedi, elle bénéficiait de l'aide d'une autre employée. Le matin, Baribeault ne la voyait pas quitter la maison puisqu'il partait avant elle pour son travail. Donc, c'est lui qui était le plus de bonne heure, le plus lève-tôt, si on veut. Et le soir, il rentrait après elle. Donc, il la voyait pas sortir et il la voyait pas rentrer. Malgré tout, il dira que Blanche partait entre 7h30 et 7h45 puisque la boutique Rousseau, donc la boutique où elle travaillait sur la rue Saint-Vallier, n'ouvrait pas ses portes avant 8h ou 8h15. Et le soir, selon lui, elle revenait entre 18h30 et 18h45 en passant toujours par le même chemin. Et pour apprendre à connaître sa personnalité, c'est quand même assez important aussi du côté victimologie, on lui a demandé est-ce que c'était une jeune fille qui recevait, qui avait des amis, qui avait des cavaliers. Lui, il répond, Michel Baribeault, « Personne, monsieur. Il n'est jamais venu personne à la maison. » Est-ce que des fois, quelqu'un venait la reconduire le soir? Je n'ai pas eu connaissance que personne est venu la reconduire. Et ensuite, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait de ses soirées à la maison. Donc, c'est pour apprendre un peu ses passe-temps. Lui, ce qu'il dit, c'est qu'elle passait dans une petite salle, donc à côté de la cuisine, j'imagine, et qu'elle jouait des airs sur le piano et qu'elle chantait à sa manière. Quoique ce n'était pas une belle chanteuse, mais n'importe. Ça, c'est son, ses paroles à Michel Baribeau. Donc, il ne trouvait pas que c'était une bonne chanteuse, mais elle s'amusait, Blanche, donc, à jouer du piano. Donc, ça veut dire qu'elle avait un minimum de talent, au moins, pour cet instrument de musique-là. Et il dira, étrangement, que, bon, souvent, elle était juste en jupon quand elle passait à table pour le souper. Et du moment qu'elle avait soupé, sa mère lavait la vaisselle et elle cousait au moulin. Donc, elle travaillait aussi au moulin, Blanche. On ne lui a jamais donné une piastre pour son travail, ni rien. Ça, c'est ce que Michel Baribeau dit. Et une autre phrase qui est bien... c'est-à-dire deux phrases qui est bien, se sont bien typiques du fait qu'elle ne sortait pas beaucoup. Michel Baribeau dira « Elle faisait tout son travail chez nous. Elle ne grouillait pas de chez nous. » Et voilà, ça veut tout dire. Donc, en soirée, elle ne semblait pas sortir. Mais comme j'ai déjà dit plus tôt, faut quand même être prudent face aux témoignages des parents parce que souvent les parents vont voir ça d'un point de vue général, que oui, effectivement, généralement, elle ne sortait pas, mais il suffit d'une fois dont il ne se souvient plus qu'elle ait pu sortir et puis que tout ça a déclenché quelque chose. Donc, c'est faut faire attention aux propos des parents, surtout qu'ils ne sont... Malheureusement, c'est triste à dire, mais il faut l'admettre, ne sont pas objectifs dans leur témoignage. Une autre réponse qu'il a faite aussi, c'est en parlant du trajet de Blanche. Il va avoir cette réponse qui nous en apprend quand même plusieurs petits détails importants. Et je vais vous le lire parce que ça ne donne rien d'expliquer. Ça se comprend tout seul, comme on dit. Alors, Michel Baribeau dit de Blanche qu'elle revenait par le même chemin, par le parc, sur le tramway. C'est un chemin court, c'est pour ça qu'elle aimait ça. Maintes et maintes fois, je lui ai défendu de ne pas y passer. Alors, le procureur lui demande pourquoi. Parce que, vous savez, c'est un précipice pour y passer maintenant. C'est une place dangereuse. Il y a toujours quelqu'un là, quasiment jour et nuit. Il y avait des bombes, donc des voyous, à cet endroit. Je lui ai dit, ne passe donc pas par là. Mon Dieu, vous savez, des affaires de rien, des affaires de 8 à 10 minutes pour me délasser seulement quand on passe la journée assis. Ça, j'ai pas su ce qu'il voulait dire par ces dernières phrases-là, mais ça semblait le fatiguer là, d'être assis au palais de justice alors que monsieur était un ouvrier et qu'il était habitué de manier le marteau là, quasiment toute la journée. Mais cette réponse-là nous dit que, bon, apparemment que c'est lui qui l'avait défendu de passer par le parc, mais qu'elle s'entêtait à y aller parce que c'était un raccourci et que ça allait vite. Mais c'est quand même curieux parce que on a parlé là, dans les premiers chapitres là, du fait qu'elle ait eu peur, qu'elle ait demandé à sa meilleure amie, Edesme Boucher, de l'accompagner jusqu'à l'entrée du parc parce qu'elle avait peur. Donc, si elle, le parc, le voyait comme un danger, ben j'imagine qu'elle l'aurait contourné, qu'elle serait passée ailleurs. Alors, pourquoi? C'est tout le temps des questions qui s'ajoutent comme ça. Puis c'est vrai aussi, quand on y repense, si, admettons, cette peur-là était pour le petit Griffin qui restait justement sur le trajet de Blanche, juste à l'entrée du parc, ben pourquoi qu'elle n'a pas décidé de faire un détour? Tu sais, je me dis, quand on a vraiment peur de quelque chose, ben ça ne nous dérange pas de faire 15, 20 minutes, 30 minutes de plus à pied, mais qu'on rentre en toute sécurité. Je sais pas pour vous, mais alors, de quoi avait-elle peur vraiment ce soir-là? Et là, ici, Michel Baribeau, ça vient un peu dire le contraire, que c'est elle qui insistait pour passer dans le parc. Je sais pas, peut-être qu'elle aimait les oiseaux, les arbres qu'il y avait là, et c'est assez... c'est encore des questions pour venir nous mêler et nous empêcher finalement de cibler une piste vraiment sérieuse. On a à peine effleuré l'alibi de Michel Baribeau parce que, bon, vous vous souvenez que les gens avaient parlé et qu'on l'avait déjà soupçonné. Mais lui, il a dit qu'au procès, en tout cas au procès de Binet et Palmer, qu'il travaillait sur les terrains de l'exposition à 18h le 22 juillet quand c'est arrivé. Donc, il était sur le chantier et il était rentré chez lui pour souper. Après quoi il s'était absenté pour aller au bureau de poste géré par son frère. Donc, comme on l'a vu, c'est le lendemain, donc 23 juillet, qu'il a appris la disparition d'abord de sa fille adoptive. Et c'est là que des recherches ont commencé. On lui a demandé c'est quoi les. On lui a demandé de spécifier, dans le fond, les recherches qu'il avait faites. Lui, il dit on a visité, mais il dit on, mais je pense qu'il parle pour lui. On a visité partout pour voir si elle était renfermée quelque part, si on ne l'entendait pas crier ou on l'apercevait dans quelque chemin ou quelque chose. Vous n'avez rien trouvé, demande le procureur. En m'en revenant, je savais qu'elle passait par là. J'ai descendu en bas du tramway, en bas de la traque, et j'ai marché dans le petit chemin tout au long pour voir si je ne trouverais pas quelque chose de son butin. Je n'ai rien trouvé non plus. Donc, il dira aussi que c'est entre 19h et 19h30 qu'il a passé dans le parc, le chemin, donc à la même heure que Blanche devait passer, donc la veille, là, lui, il était le lendemain. Et il n'a rien vu. Alors, est-ce que le cadavre de Blanche Garneau était déjà là, mais qu'il n'a rien vu? C'est possible. Mais comme j'ai déjà mentionné, les théoriciens du complot s'en sont servis pour mousser le fait qu'elle avait été tuée ailleurs et que le cadavre avait été ramené. Mais dans les faits, on n'a aucune preuve pour nous dire que le cadavre avait été déplacé. Donc, il faut croire... Surtout que les broussailles aussi, on présume que les broussailles étaient épais là, le long de la rivière Saint-Charles. Donc, c'est certain que M. Michel Baribault n'a pas tout vu. Il est peut-être passé très, très près, c'est possible. C'est ça qui est le plus triste aussi. Il est peut-être passé très près du corps sans le voir. Et lui, le fait qu'il n'ait rien vu, ben il n'est pas revenu par la suite. Mais peut-être que s'il était revenu deux ou trois fois faire ses recherches différemment, peut-être qu'à ce moment-là, il serait tombé sur le corps de Blanche. Et comme je le disais tantôt, c'est un ouvrier, hein, et puis on traite les bébés boomers aujourd'hui de personnes de la vieille école, mais imaginez 100 ans plus tôt, hein, c'est il avait l'air justement de la vieille école, mais de la très, très, très ancienne école. Qui n'avait pas d'Internet dans ce temps-là, et il a lancé des boutades. Hein. Tantôt, il a laissé entendre qu'il était assis trop longtemps, mais ici, à un moment donné, il lâche une boutade. Ça sert à rien de poser les mêmes questions trop souvent, mais c'est comme on l'a mentionné aussi plus tôt, c'est normal, c'est... Bon, ça arrive, les procureurs veulent de plus en plus de précision, et ce qui arrive, c'est que l'être humain est fait comme ça. On va lui poser deux fois la même question, mais il va donner deux réponses, ou deux réponses très semblables, mais la deuxième peut être plus détaillée. Donc voilà d'où l'importance de revenir sur certaines questions, mais lui, il n'a pas apprécié ça. Alors, la seule chose que ça peut nous faire dire, c'est que, étant donné que Michel Baribault a déjà été... pourrait l'être encore, mais on va y revenir là-dessus vers la fin, être un suspect, est-ce que son comportement au procès peut révéler un aspect agressif, peut démontrer qu'il a la capacité d'être un assassin? Je ne sais pas, mais quand même, ça fait partie de la personnalité du personnage et il ne faut pas l'oublier non plus. Et il s'est plaint encore aussi une fois un peu plus loin en disant « J'avais assez d'occupation à mon ouvrage, j'avais été assez tracassé, j'avais ma femme qui était prête à perdre connaissance toutes les minutes, elle va venir paraître bientôt, vous allez voir une femme comme ça, la face comme un crucifix sur le camp. » Voilà, c'est assez... Ouais, et voilà, ça c'est du pur québécois, là, quelqu'un de qui est habitué de vivre avec sa femme. Et en plus, il y a dessin un peu. Mais en tout cas, c'est là. Tout ça pour dire que c'est la première fois que j'entendais cette expression-là. La face comme un crucifix sur le camp. Hein? Et vous aurez compris que sur le camp, ça veut dire de travers. Mais bon, c'est ça change rien au fait. Là. C'est pas un fait, c'est plus une boutade. D'où l'importance de la défense avec ses contre-interrogatoires. Justement, la défense a voulu en savoir plus. Et sur les fameuses fouilles de M. Baribault. Et c'est en le questionnant qu'on a fini par lui faire dire qu'il avait, oui, fouillé dans les branches, mais seulement près de la voie ferrée. Ah! Donc voilà, c'est à ça que ça sert aussi la défense, c'est à repréciser certaines choses, même si on se répète. Alors lui, dans un premier temps, il avait dit comme s'il y avait, il laissait entendre comme s'il avait fouillé tout le parc, mais finalement, non. Donc, c'est très, très, très possible que le cadavre de sa fille se trouvait tout près et qu'il ne l'ait pas vu. D'autant plus qu'il a fait ses fouilles le lendemain, à la même heure, donc ça faisait juste 24 heures qu'elle était décédée, qu'on présume. Donc, les odeurs n'avaient pas eu le temps de se répandre encore, donc c'est tout à fait plausible là, que le cadavre ait été là. Donc, le prochain témoin, c'est effectivement la femme qui a la face comme un crucifix sur le camp. Non, pour être sérieux, c'est la femme de Michel Baribault, donc qui s'appelait Émilie Sanfaçon, qui a corroboré son mari, bon, sur plusieurs détails. Elle a reconnu ensuite aussi un portrait de Blanche que lui a montré Maître Cannon. Elle a affirmé d'emblée aussi qu'elle connaissait toutes les fréquentations de sa fille. Ah, 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 ça, je garde, comme je le dis, je le répète, mais c'est tellement important, garder un bémol là-dessus. Parce qu'on ne peut pas suivre quelqu'un à la trace 24 heures sur 24, même si c'est la personne que vous aimez le plus au monde. Eh bien oui, Blanche, comme ça a été démontré d'ailleurs, ben, le petit Griffin, elle l'a rencontré au magasin et ailleurs, et les parents ne l'ont jamais vu. Donc, voilà. Faire attention aux fréquentations, c'est toujours très, très, très délicat. Les gens commencent... dès qu'un enfant commence à aller à l'école, au fond, il commence à avoir une double vie. Il y a la vie à la maison, la vie à l'école, et plus tard, la vie au travail, la vie sociale. Donc, ça se sépare en trois, quatre, tout ça, tout dépendamment des cercles d'amis. Donc, ces cercles-là, des fois, ne se côtoient vraiment pas du tout. Alors que d'autres sont complètement transparents. Donc, il faut faire attention. La victimologie, c'est ça, c'est très délicat. Bon, ben, il y a plusieurs points que je vais passer parce que ça se répète, on les connaît déjà. Mais un point intéressant, justement, que la défense fait ressortir, encore une fois, il la questionnait à propos du fait là, que le soir de sa disparition, il y avait possibilité qu'elle reste chez sa tante Émérilda. Pour faire de la peinture ou de la tapisserie, quelque chose comme ça. Mais on a fini par faire dire à la mère adoptive que Blanche, et là je dis le mot entre guillemets, souvent, y allait souvent chez sa tante Émérilda. Donc, elle découchait souvent de la maison des Baribault. Parce que le contraire a été dit, hein, qu'elle ne sortait jamais, qu'elle ne fréquentait personne. Et qu'elle passait toutes ses nuits à la maison. Donc, à quelque part, c'est pas vrai. Et c'est la mère adoptive qui finit par l'admettre. Donc, nuance ici. Est-ce que... je sais pas, là. Ça n'a pas été démontré plus loin que ça. Mais, par exemple, elle aurait pu dire que « Ah, je vais passer une nuit chez ma tante, mais... hey, ma tante, peux-tu me couvrir pour telle chose? J'ai un petit gars à aller voir à quelque part où j'ai un rendez-vous, là. » C'est possible, hein? C'est vieux comme le monde, les cachettes pour... aller rencontrer des petits amoureux ou des amourettes. Et on lui fait dire encore, oui, elle était consciente que Blanche avait rencontré M. Griffin, et elle était consciente que, oui, lui avait demandé pour sortir avec elle, et que Blanche avait refusé, donc on lui fait répéter tout ça. Évidemment, la défense veut semer le doute, hein, c'est semer le doute raisonnable. Donc, il suffit d'un tout petit doute, et Binet et Palmer seraient acquittés, par exemple. Donc, voilà, c'était déjà un début, parce que si on présente la possibilité d'un autre suspect, ben voilà, ça vient attaquer, ça vient gruger, si on veut, la solidité de la preuve faite par la couronne. Et quand on lui avait demandé aussi si Blanche parlait anglais, elle avait répondu non, mais on lui a fait comprendre la nuance très importante. Est-ce qu'elle savait qu'elle parlait anglais? Ça, c'est pas pareil. Parce que selon elle, elle parlait pas anglais juste parce qu'elle l'avait jamais entendu parler anglais. Mais est-ce que Blanche pratiquait l'anglais ailleurs? C'est tout à fait possible, soit par la lecture, soit avec des amis, tout ça. Il y avait quand même plusieurs personnes qui parlaient anglais à Québec à cette époque-là. Ensuite, on a fait venir le témoin Louis Giroux, 35 ans, qui a expliqué, il a pris, dans le fond, lui, c'est un genre de... un preneur de mesures, si on veut. Il a calculé des distances et tout ça, blablabla. Et je vais passer rapidement parce que ça a servi surtout à faire le plan. Et le plan, ben, je peux pas vous le présenter, malheureusement. Hein, il est aux Archives nationales et étant donné qu'on fait une balado, ben, le visuel est capote. Hein, il n'est pas là. Ensuite, on a fait venir donc Edesme Boucher, que vous vous rappelez certainement, la meilleure amie de Blanche, qui travaillait à la boutique La Perfection. Après qu'on l'a entendu qu'elle voyait Blanche Garneau tous les jours, ben, la couronne a voulu démontrer quel était le degré de leur amitié. Alors, on lui a demandé, est-ce que cette amitié que vous aviez avec elle a duré longtemps? Oui, monsieur, j'ai toujours été ami avec elle. Encore une fois, faut faire des nuances. Le mot toujours, qu'est-ce que ça veut dire toujours? Combien d'années, ça, toujours? Depuis leur enfance, depuis qu'ils sont au monde? c'est pas évident. Ensuite, ben, elle a décrit, évidemment, le dernier soir qu'elle a passé avec Blanche, qu'elle l'a reconduite. Elle a décrit leur trajet ensemble. Justement, à propos du mot toujours, la défense lui a demandé depuis combien de temps elle connaissait Blanche Garneau. Et elle a répondu 5 ou 6 ans. Donc, pour elle, l'interprétation du mot toujours, ça pouvait être considéré comme synonyme de 5 ou 6 ans. Donc, voyez-vous, il faut faire attention à certains mots, comme toujours, jamais, et c'est pas moi qui l'a fait. Bref. Ensuite, on lui a demandé, évidemment, de décrire ses derniers instants, et on est revenu aussi, évidemment, sur Martin Griffin, la défense... Évidemment, vous aurez compris, hein? Moi j'aurais peut-être fait pareil comme avocat de la défense, aimait cette piste-là, donc le nom de Griffin devait être mentionné le plus souvent pour semer le doute, écarter l'accusation contre Binette et Palmer. Et Madame Boucher, Madame Edesme Boucher se rappelait que Griffin, parce qu'on lui a demandé où était Griffin à ce moment-là quand elle a vu Blanche vraiment pour la dernière fois, donc au moment de la laisser devant l'entrée du pont, et elle dira que Griffin était en train de descendre d'une automobile avec un autre jeune homme qu'elle ne connaissait pas du tout et qu'elle n'a pas été capable d'identifier, mais qu'il descendait de l'auto pendant qu'elle échangeait ses derniers mots avec Blanche avant de la laisser aller vers le pont. Donc, voyez-vous, cette précision-là, je pense qu'on ne l'avait pas nécessairement au départ. C'est vraiment très, très, très restreint dans le temps au moment qu'elle est sur le point de la laisser. Combien de minutes, combien de secondes se passe-t-il? Elle s'en va toute seule vers le parc. Est-ce que Martin Griffin est tout prêt? Est-ce qu'il la voit, là, à ce moment-là, aller toute seule? Il connaît son trajet, j'imagine aussi, parce que c'est pas la première fois qu'elle passait par là. Alors, est-ce que, on va y revenir, mais est-ce qu'il a eu le temps, par exemple, de la suivre rapidement et de revenir à la maison pour souper? Bref, c'est évidemment ce que voulait laisser entendre la défense. Et finalement, je passe aussi quelques détails, parce que sinon, on s'en sortira pas en bas d'une balado de 3 heures, juste pour un chapitre. Mais on revient sur le fait aussi que Blanche lui était apparue... de façon étrange ce soir-là du 22 juillet 1920. Et elle va expliquer que cette journée-là, je trouvais qu'elle avait l'air plus triste que d'habitude. Donc, ce sont ses mots à Edesme. Et le procureur lui demande, si je comprends bien, c'est la raison pour laquelle vous l'avez regardée aller. Oui, monsieur. Connaissez-vous la raison de cette tristesse-là? Non, monsieur. Vous ne lui avez pas demandé. Non, elle ne m'avait pas dit qu'elle avait de la tristesse non plus. Elle ne m'a pas dit qu'elle avait de la peine. Elle ne vous avait pas dit qu'elle avait de la peine, mais vous trouviez qu'elle avait l'air plus triste que d'habitude. Oui. Et c'est pour ça que vous l'avez regardée aller. Oui, monsieur. Vous n'avez pas songé à lui demander pourquoi elle était triste? Non. Vous a-t-elle dit que la veille, elle était allée en auto? Non. Elle ne vous l'a pas dit? Non. Le saviez-vous? Non, monsieur. Et c'est tout ce que vous en savez, mademoiselle? Oui, monsieur. Vous êtes bien sûr de ça? Oui, monsieur. Et ça conclut le témoignage de Edesme Boucher. Ça s'est terminé comme ça. Ensuite, on va rester avec nos témoins familiers. Hein? C'est les mêmes qu'on connaît et c'est tout à fait normal, comme je le disais, parce qu'il faut établir la preuve comme il faut. Les déplacements, tout ça. Donc, le prochain témoin a été Édouard Morancy, le gardien du parc Édouard Morancy. Qui se décrivait maintenant comme un jardinier à l'emploi de la corporation du parc Victoria. hein, n'est-ce pas? Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire qu'il avait laissé son travail de gardien pour devenir jardinier? Est-ce qu'il avait été congédié? Je sais pas. Il était peut-être plus compétent avec les carottes, puis les tomates, puis les autres arbustes. On ne sait pas trop. Donc, selon lui, on récapitule au soir du 22 juillet, c'est entre 18h30 et 19h, alors qu'il était assis sur un banc, qu'il avait vu circuler près de la serre la victime. Il a même inscrit sur le plan déposé en preuve sous la cote P3 avec une croix à l'endroit exact où il était assis. Donc, son souvenir était très, très clair de ce soir-là. Il dira même qu'elle arrivait depuis le chemin Saint-Sauveur avant qu'elle ne passe entre la serre et le restaurant pour se diriger vers les voies ferrées. Il l'avait ensuite perdu de vue puisque la serre l'empêchait de voir plus loin. Et ensuite, ne l'oublions pas, Morancy a peut-être été le seul dans toute cette histoire-là à avoir vu le véritable assassin. Parce que souvenez-vous qu'après avoir vu passer Blanche Garneau, tout de suite après, il a vu un jeune homme qui semblait vouloir la rattraper, vouloir s'approcher d'elle en marchant plus vite. Alors, on va y revenir. Est-ce que son souvenir s'est modifié depuis qu'on l'a entendu devant le coroner et tout ça? C'est à vous de voir, chers auditeurs. Alors, je vais vous lire le petit extrait ici avec l'avocat. Après le passage de Mademoiselle Garneau que vous venez de nous décrire, avez-vous vu passer d'autres personnes? Morancy répond, j'ai vu passer un jeune homme. À quelle distance à peu près était-il de Mademoiselle Garneau, ce jeune homme? À peu près 80 pieds. Dans quelle direction marchait ce jeune homme qui était à peu près à 80 pieds de Mademoiselle Garneau? Dans la même direction. Ce jeune homme vous a-t-il passé? Il a passé devant moi comme Mademoiselle Garneau dans le même chemin. Voulez-vous maintenant recueillir vos souvenirs, M. Morancy, et décrire à la cour et à messieurs les jurés le jeune homme que vous avez vu passer? C'était un jeune homme pas bien grand. Il marchait voûté. Il m'avait l'air d'un homme accoutumé à travailler à la grosse ouvrage. Comment était-il habillé? Il était habillé en noir avec un chapeau mou. Monsieur Morancy, avez-vous, depuis cette date-là, eu occasion de rencontrer quelqu'un qui ressemblait à ce jeune homme dont vous venez de nous donner la description par son apparence, sa démarche? Monsieur Rioux m'a montré deux jeunes gens. Il y en a un qui correspond à peu près à la taille de ce jeune homme-là, mais seulement, il n'était pas habillé pareil. Et dans tous les cas, c'est difficile de le reconnaître. Où est-ce que vous avez vu ce jeune homme que le détective Rioux vous aurait montré? Ici, à la cour, en bas. Et là, c'est pas sorcier, hein? Évidemment, on faisait référence à M. Binet ou soit Palmer. On lui a probablement montré les deux. Évidemment, il se retrouve dans la même salle d'audience. Donc, on imagine que s'il avait reconnu le suspect dans la salle d'audience ou s'il avait reconnu que ce soit Binet ou Palmer, ben, il l'aurait dit. Hein? C'était quelqu'un d'honnête, M. Morancy. Donc, pauvre lui, c'est peut-être pour ça qu'il était devenu jardinier. Peut-être parce qu'il en avait assez de tout ça, de ce milieu un peu policier, si on veut, là. Mais par contre, dans cette, on peut dire, le line-up, là, ou ce qu'on appelle aujourd'hui les fameuses reconnaissances de témoins, là, on place, vous avez certainement vu ça au cinéma, on place différentes personnes qui peuvent se ressembler. Le suspect est parmi ça, il porte des numéros, et à travers une vitre teintée, ben, le témoin ou la témoin va tenter de l'identifier. Ça, c'est une méthode un peu comme les photos. Si on vous présente 10 photos et qu'on vous demande d'identifier le suspect parmi ça, sans vous-même vous dire que la photo du suspect n'est peut-être même pas là, ben c'est une façon objective de le demander. Mais, en 1920, regardez bien comment on procédait. Vous allez voir qu'on a des détectives, le détective Rioux qu'on a encensé pour certaines affaires. Vous allez voir comment il procède. Parce que l'avocat lui a demandé comment ça s'était produit, cette affaire-là, à M. Morancy. Donc, M. Morancy a dit que M. Rioux l'avait fait venir donc dans une salle du palais de justice. Et là, je prends ses paroles. En entrant en cours, il m'a montré un siège. Il dit « Assoyez-vous donc là ». Je me suis assis et il y avait ces deux jeunes gens qui étaient assis sur le banc. J'ai regardé, il y avait d'autres hommes qui étaient là. Là-dessus, M. Rioux m'a appelé, il m'a fait sortir, il dit « Le reconnaissez-vous? » J'ai dit « Il y en a un qui correspond à peu près à la taille de celui que j'ai vu. » En lui présentant Binette et Palmer, ben, de cette façon-là, c'est très subjectif. C'est comme de dire « Ben là, dites-nous... lequel vous avez vu, en voulant dire « il est là, là, il est vraiment là ». Mais étant donné que la personne que M. Morancy a vue dans le parc n'a jamais été identifiée clairement, ben, voyez-vous, on ne pourra pas être sûr que ce soit un ou l'autre. C'est comme si on l'obligeait à choisir entre un ou l'autre. C'est malheureusement, c'est très, très, très... bon, c'est très erroné comme méthode. Est-ce que dans le milieu policier, on procédait comme ça tout le temps, à cette époque-là? Eh bien, si c'est le cas, parce qu'avant de juger, hein, faut toujours regarder ce qui se faisait à l'époque. Si c'est la méthode qu'on faisait à l'époque, ben on peut excuser Rioux, le détective Rioux, puis dire, bah OK, il suivait la procédure de l'époque. Mais normalement, en tout cas, la méthode s'est améliorée de beaucoup. Et il y a moins d'erreurs aujourd'hui, même si, encore là, c'est pas tout à fait au point, c'est pas parfait. Mais voilà, c'est quand même plus... c'est comme de vous dire, là, je vais vous présenter quelqu'un, vous allez me dire si c'est lui. Wow, c'est pas objectif du tout, là. Parce que, on pourra en parler longtemps, mais côté psychologie, la personne peut tellement se convaincre qu'il s'en va rencontrer le tueur, qu'il va dire oui que c'est lui. Alors quand on lui donne le choix, là, ça l'oblige à travailler un peu et tout ça. Alors voilà, c'est un peu c'est intéressant, mais c'est un peu pour vous décrire aussi les méthodes policières de l'époque qui étaient loin d'être parfaites, disons-le comme ça. Et ce qui est le plus triste dans tout ça, c'est que finalement, ben Morancy a dû avouer que même si on lui amenait la personne au dos voûté, qu'il avait vu dans le parc, il n'était pas certain. Au moins, il y a eu cette honnêteté-là. Il n'était pas certain de pouvoir l'identifier. Donc, il n'avait peut-être pas vu son visage comme il faut. Alors, voilà. Il a eu son honnêteté en le disant. En disant, ben, même si vous me l'amenez, je ne pourrais pas dire à 100% que c'est lui. Donc, il a été honnête d'un côté, mais d'un autre côté, c'est frustrant parce que il aurait peut-être. C'est peut-être lui qui a vu le tueur ce soir-là. Alors, voilà. Donc, ça conclut le chapitre du procès. Le procès, par contre, n'est pas terminé, loin de là. Au prochain épisode, on va se transporter à une autre journée du procès, donc le 28 octobre 1921. Et le chapitre s'intitule « Une preuve suffisante » avec un point d'interrogation. Et oui, on va commencer à douter de la preuve. À l'essayer de l'ébranler et tout ça. Et là, on va commencer à connaître un autre aspect de l'histoire qu'on ne connaît pas du tout. Donc, on va entrer un petit peu plus dans la vie de Binette et de Palmer et tout ça. Donc, c'est à suivre pour savoir compléter vos notes et nous dire à la fin quel sera votre verdict. Alors, voilà, on se dit à bientôt. Bye!